Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
La vida mia. No, no fue normal.
Disons-le, ma vie n'a pas été normale.
Y gracias a Dios le pudimos dar a la gente
sonrisas. Dieu merci, nous avons pu donner des sourires et de la joie aux gens.
Une vie extraordinaire, celle de Diego Maradona, le dieu du ballon rond, a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Joueur génial, homme fantasque, une légende s'en est allée. Nous irons en Argentine, pays comptant rendu fier les dribbles et les buts de Maradona, pays ce soir en deuil, orphelin de son PIB d'euro. Talent unique, footballeur hors norme, les hommages affluent du monde entier. Nous entendrons celui de Manuel Amoros, l'un des rares bleus à avoir affronté le génie argentin. Et nous vous raconterons également l'histoire d'amour contrarié entre Maradona et Marseille. L'OM a failli le recruter. Marseille qui joue en ce moment face à Porto en Ligue des Champions. Nous irons au Stade Vélodrome. Au sommaire également de ce journal, les suites de l'allocution hier d'Emmanuel Macron et les questions encore sans réponse auxquelles doit répondre demain le Premier ministre. Quid des bars, quand pourra-t-il rouvrir? La jauge de 30 personnes maximum dans les lieux de culte va-t-elle être revue à la hausse? Et puis comment doivent s'organiser les cinémas et théâtres? À quelle heure la dernière représentation ou séance? On va vous détailler tout cela dans ce journal. Le temps de demain, très similaire à celui d'aujourd'hui, avec des grisailles matinales, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris, elle a clôturé en hausse de 0,23% à 5571 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamo de Boursier.com. L'interview Écho dans 20 minutes et cette information Europe 1. 60% des Français ont acheté ou ont l'intention d'acheter un smartphone reconditionné. C'est du jamais vu. Emmanuel Luteil reçoit à ce sujet Jean-Christophe Estoudre, président de Smart, un des grands noms des smartphones reconditionnés en France.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Beaucoup disent de moi, tu es Dieu, et moi je leur réponds, vous dites n'importe quoi. Dieu est Dieu, et moi je suis un simple footballeur. C'est pourtant bien un dieu du football qui s'en est allé aujourd'hui. Diego Maradona avait 60 ans et une carrière faite de superlatifs. Julien Froment.
J'ai deux rêves dans la vie. Le premier, jouer le mondial. Le second, le gagner.
Diego Armando Maradona n'a que 12 ans, il ne le sait pas encore, mais El Pibe de Oro, le gamin en or du bidonville de Buenos Aires, va marquer à jamais l'histoire du football mondial. Quand on évoque Diego Maradona, la première chose qui vient à l'esprit, c'est ce fameux 22 juin 1986 et ses deux buts contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Deux buts pour l'éternité, à l'image du personnage, à la fois génial et scandaleux, devant 115 000 spectateurs à Mexico, dans un contexte géopolitique lourd, 4 ans après la guerre des Malouines. Diego, numéro 10 sur le dos, va d'abord s'envoler plus haut que le gardien anglais et inscrire le but le plus polémique du siècle dernier, cette fameuse main de Dieu. Et puis, 4 minutes plus tard, Maradona l'artiste réalise cette fois-ci son chef-d'œuvre, un but digne d'une peinture impressionniste. Un génie, un cerf-volant cosmique, le commentateur sportif de l'époque, Hugo Morales, n'a plus assez de mots. C'était ça, Diego, un joueur frisson capable de gagner à lui seul la Coupe du Monde 86 ou de mettre la ville de Naples sur la carte du football européen. Mais il avait hélas sa part d'ombre, comme son contrôle positif à l'éphédrine au Mondial 94. Un contrôle qui sonne la fin de sa carrière à 37 ans. Maradona, génial footballeur, médiocre entraîneur, il connaît sur le banc de touche des fortunes diverses en enchaînant les clubs de seconde zone. Ces dernières années auront aussi été marquées par de nombreuses hospitalisation, des problèmes de drogue et d'alcool. Comme l'a si joliment chanté Manu Chao, la vie de Diego était une tombola. Lui-même ne s'en cache pas, son existence a été faite de chaos et d'apothéose.
J'ai 53 ans, mais c'est comme si j'avais 78 ans. Disons-le, ma vie n'a pas été normale. Tout le monde me dit, tu as 53 ans? 53 ans, j'en ai vécu 80 avec tout ce que j'ai vécu. Dieu merci, nous avons pu donner des sourires et de la joie aux gens. Tu sais quel joueur j'aurais été si je n'avais pas pris de drogue? J'aurais été un putain de joueur.
Il y a encore 2 semaines de cela, après une opération au cerveau, Diego Maradona pensait reprendre une nouvelle fois le cours de son incroyable vie, mais c'est finalement son cœur qui a lâché à 60 ans, laissant 45 millions d'Argentins orphelins.
Le portrait de Diego Maradona signé Julien Froment. On prend tout de suite la direction de l'Argentine, pays en deuil, qui a donc perdu son PIB d'euros, son gamin en or. Aude Villiers-Moriamé, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires, où les Argentins ont encore ce soir beaucoup de mal à y croire.
Oui, tout le pays est vraiment sous le choc. Dans les rues de Buenos Aires, les Argentins sont visiblement très émus. Un grand rassemblement est prévu ce soir au pied de l'obélisque au cœur de la capitale argentine. Des milliers de personnes devraient s'y rendre, et ce, malgré la pandémie de coronavirus. Sur les réseaux sociaux, les messages qui saluent la vie et la carrière de Diego Maradona se multiplient. Hasta siempre, Diego, ou encore une partie de l'Argentine est décédée aujourd'hui. L'autre grand nom du football argentin, Lionel Messi, a déclaré « Il nous quitte, mais il ne s'en va pas parce que Diego est éternel ». Quant au président Alberto Fernandez, il a tweeté « Tu as été le plus grand de tous, merci d'avoir existé, Diego ». Alberto Fernandez qui a suspendu son agenda jusqu'au vendredi. 3 jours de deuil national ont été décrétés pour rendre hommage à celui qui est ici surnommé Dios, Dieu tout simplement. Maradona a décédé à 60 ans d'un arrêt cardiaque dans sa maison de Tigre, en grande banlieue de Buenos Aires. Il s'y reposait après avoir été opéré d'un hématome au cerveau il y a moins d'un mois.
Merci Aude Villiers-Bonriamé, correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires, où une veillée funèbre sera organisée à partir de demain au palais présidentiel. Le corps de Diego Maradona y sera exposé pendant les 3 jours de deuil national. Mais ce soir, ce n'est pas qu'un pays qui est orphelin de son génie, c'est toute la planète foot, les hommages affluent du monde entier, c'est notre passé qui s'en va, a réagi Michel Platini. J'espère qu'un jour nous pourrons jouer ensemble au ciel, écrit le roi Pelé. Ce n'est pas au ciel, mais bien sur la pelouse du Parc des Princes que l'ancien international français Manuel Amoros a joué contre Maradona. C'était lors d'un match amical France-Argentine en 1986. Des Bleus subjugués ce soir-là par le talent du numéro 10 argentin, à tel point qu'Amoros a essayé d'en garder un souvenir, sauf qu'il n'était pas le seul.
C'est vrai qu'on essayait, moi qui parlais un peu espagnol, on pouvait me donner son maillot à la fin pour échanger. Il me dit non, je l'ai déjà promis à 5 ou 6 personnes. Donc, vous voyez, un seul maillot, il l'avait déjà promis. Donc, mais bon, voilà, c'était un personnage. C'était un joueur fabuleux, un joueur extraordinaire. Maradona restera toujours Maradona avec ce talent extraordinaire que Dieu lui a donné et que lui, il a su après... s'épanouir tout au long de sa carrière.
L'ancien joueur des Bleus, Manuel Amoros, joint pour Europe 1 par Simon Rubin. Écoutez maintenant la réaction de Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football.
Un joueur impressionnant, peut-être le meilleur, bon, qui a fait des choses techniquement invraisemblables. Oui, bon, c'est un dribbleur hors pair, hein, pour le moment. Regardez un certain nombre de ses buts, hein, il a été capable de dribbler 4, 5, 6 joueurs et marquer. Il était beau à voir jouer, c'est un personnage atypique, très atypique bien évidemment. Mais si on juge que le footballeur, c'est quand même, il fait partie des meilleurs, des tout meilleurs.
L'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire qui a bien failli signer à l'Olympique de Marseille et donc jouer au Stade Vélodrome où l'on vous retrouve, Jean-François Pérez. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Julien.
Jean-François, vous allez dans un instant nous commenter ce match en cours entre l'OM et Porto, rencontre de Ligue des Champions. Mais avant, racontez-nous cet épisode, ce transfert avorté de Maradona à Marseille.
Oui, c'était au tournant des années 90 et Bernard Tapie, qui ne doutait de rien, avait dit à Michel Hidalgo, qui était alors le directeur sportif de l'OM, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, tente le coup, prends mon avion, va à Naples, essaye de le faire signer. Apparemment, il y avait un tuyau selon lequel Maradona voulait quitter Naples. Il était malheureux, il se sentait déjà un petit peu otage de la mafia napolitaine. Et donc, Michel Hidalgo est parti à Naples, il a essayé de négocier ce transfert. Il s'est même retrouvé dans la cuisine de Diego Maradona, qui ne voulait pas qu'on le voit, surtout pas, parce qu'il était en train de baptiser sa fille. Il y avait des centaines de personnes chez lui. Et il a réussi à parler à Michel Hidalgo, qui lui a fait des belles promesses de villa, Cassis, avec des palmiers, avec une piscine, avec surtout du calme, une vie calme. Et ça, Maradona n'arrêtait pas de lui dire oui je veux ça, oui je veux ça, je veux absolument venir à Marseille. Sauf que Maradona ne s'appartenait pas et les dirigeants de Naples ont tout simplement refusé que ce transfert se fasse. Voilà comment Maradona n'est pas venu à l'Olympique de Marseille, mais il a quand même foulé le sol de Marseille et la pelouse du Stade Vélodrome en 2009, très exactement, quand il était sélectionneur de l'Argentine. Il était venu, il avait gagné d'ailleurs avec l'Argentine, avec notamment un but de Léo Messi 2-0, et il avait reçu à Marseille un accueil absolument extraordinaire dont il se souviendra sans doute même là-haut, au paradis des footballeurs ce soir.
Merci pour ce retour en arrière Jean-François, revenons maintenant au présent et ce match donc de Ligue des Champions entre l'OM et Porto.
Oui, alors là on est très très loin du talent de Maradona, 51e minutes de jeu et ce sont les Portugais qui mènent 1-0 depuis la 39e minute, un but de Zaidou Sanoussi, le latéral nigérian de Porto, suite à une action, un cafouillage, les défenseurs marseillais qui étaient mal placés, qui ont été très très inactifs, très statiques sur cette action. Et donc Porto qui mène 1-0, l'OM qui avait plutôt pas mal débuté mais qui a dû quand même lâcher prise parce que Porto a plus d'expérience en Ligue des Champions, plus de calme, plus de sérénité, et l'OM va maintenant se battre pour éviter une statistique terrible, à savoir une 13e défaite d'affilée en Ligue des Champions, une statistique qui lui pend au nez au vu des dernières minutes de ce match. Voilà, il reste encore 40 minutes pour éviter ce funeste sort sportif à l'Olympique de Marseille.
Merci Jean-François Pérez en direct du Stade Vélodrome pour Europe 1. Jean-François, que l'on retrouvera à la fin de cette édition pour un dernier point sur ce match OM-Porto.
Europe Soir, le 22-22-30.
L'autre actualité ce soir, ce sont les suites de l'allocution hier d'Emmanuel Macron. Jean Castex prendra à son tour la parole demain à 11h, conférence de presse du Premier ministre pour détailler les mesures annoncées par le chef de l'État, détailler et répondre à certaines questions toujours en suspens. On va les passer en revue ensemble, sachant que des négociations sont toujours en cours. On sait que les restaurants ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier, mais qu'en est-il des bars, Carole Ferry ?
Alors écoutez, pour les bars, c'est simple, pour l'instant, il n'y a aucune date. Si l'épidémie montrait une impressionnante accalmie en janvier, il pourrait peut-être rouvrir le 20. Enfin, ce qui se dessine plutôt, c'est d'abord une réouverture des restaurants et, si tout se passe bien, des bars ensuite, peut-être autour du 1er février, peut-être même plus tard. Mais quand on parle de bars, attention, hein, je parle vraiment des bars festifs, ceux qui ne servent pas du tout à manger. Pareil pour les discothèques. Alors, tous ces établissements vont être indemnisés. Emmanuel Macron l'a confirmé. Ils pourront récupérer jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires de l'an dernier sur la période de fermeture. Une mesure évaluée à 1,6 milliard par Bercy. Et puis, il faut signaler que les hôtels attendent toujours de savoir à quoi ils auront droit. Comme ils ne sont pas fermés administrativement, ils n'ont pas le droit aux mêmes aides. En même temps, tant que les restaurants sont fermés, personne ne va à l'hôtel. Donc, leur situation est à l'étude en ce moment même.
Les précisions de Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Autre sujet encore en discussion, les lieux de culte, ils pourront rouvrir après-demain. Oui, mais avec combien de personnes ? Emmanuel Macron a évoqué hier une jauge de 30 fidèles, sauf que là aussi, ça devrait évoluer, comme l'explique le porte-parole des évêques de France, Hugues de Voilemont.
Le président de la République a appelé dans la soirée le président de la conférence des évêques, Mgr de Moulin-Beaufort, et ce qui permet aujourd'hui de pouvoir envisager sereinement la reprise des cultes avec une jauge encore à préciser. Et nous sommes heureux que le président Macron ait pu entendre notre déception, notre étonnement. Cette question de 30, nous ne l'avions jamais évoquée auparavant, puisque dans nos protocoles, nous avions proposé l'accueil des fidèles avec 4 mètres carrés pour chacun d'entre eux et de réduire la capacité d'accueil au tiers de la capacité habituelle. Nous attendons un rendez-vous avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur d'ici sa prise de parole.
Le porte-parole des évêques de France au micro Europe 1 de Virginie Riva. Autre secteur qui attendait fébrilement les annonces du chef de l'État, la culture. On devrait pouvoir retourner au cinéma et au théâtre à partir du 15 décembre, mais là aussi, il y a encore quelques inconnus sur les modalités, Diane Chenouda.
Oui, d'abord, il faut que les conditions sanitaires soient réunies. Si c'est le cas, bien sûr, les cinémas et théâtres pourront rouvrir avec cette fois un système d'horodatage pour les représentations de fin de journée qui permettra aux spectateurs de rentrer chez eux malgré le couvre-feu, c'est-à-dire qu'après 21h, le billet de cinéma ou de théâtre servira de passe-droit. Mais les cinémas, par exemple, pourront-ils sauver la séance de 20h ? Pas de certitude à 100% pour l'instant, mais Richard Patry, le président de la Fédération nationale des cinémas français, est confiant.
C'est notre objectif. Si ça se passe bien dans les 3 semaines, je pense que nous pourrons aboutir à pouvoir organiser une séance de 20 heures, ce qui est important, ce qui laissera à nos concitoyens la possibilité de faire leurs courses de Noël en centre-ville et puis ensuite d'aller au cinéma et de pouvoir rentrer chez eux avec comme justificatif leur ticket de théâtre ou de cinéma qui leur permettra de rentrer chez eux.
C'est important car la séance du soir pour les cinémas, c'est presque la moitié de leurs entrées. C'est donc aussi une question cruciale également pour les théâtres et les opéras qui est en cours de discussion interministérielle. On devrait en savoir plus, on l'espère demain ou dans les tout prochains jours.
Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. La réouverture le 15 décembre des cinémas, théâtres et musées est conditionnée à l'évolution de la situation sanitaire. Emmanuel Macron a rappelé les objectifs hier soir, moins de 5000 contaminations par jour et entre 2500 et 3000 personnes en réanimation. réanimation. Des chiffres dont on est encore loin. Un peu plus de 16 000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures et 4 136 patients Covid sont ce soir en réanimation. Les entreprises et le gouvernement vont entamer une réflexion sur le télétravail. Il pourrait devenir obligatoire quelques jours par semaine durant les premiers mois de 2021. Le temps que la pandémie soit passée, indique le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Et puis après Danone et Total en début de semaine, une autre multinationale annonce un plan social. Il s'agit d'IBM, le géant américain de l'informatique, envisage, selon les syndicats, de supprimer jusqu'à 1385 postes, soit environ un quart de ses effectifs en France. Un plan de sauvegarde de l'emploi doit être présenté le mois prochain. La météo, Anissa Haddadi, demain nous aurons le même temps qu'aujourd'hui.
Oui, la journée de demain va effectivement beaucoup ressembler à celle d'aujourd'hui, Julien, avec sur les Hauts-de-France, le Cotentin et la Bretagne, un ciel toujours couvert. Au nord de la Loire, encore pas mal de brouillard demain, des nuages bas qui restent présents toute la journée, prudence donc. Sur le golfe du Lion, le Languedoc, le Roussillon et les Cévennes, le ciel est couvert encore demain, avec un temps pluvieux. Et puis partout ailleurs, entre la Bretagne et les Cévennes, eh bien vous aurez droit à un temps sec et ensoleillé avec quelques petits passages nuageux, mais rien de très inquiétant. Les températures, elles sont toujours fraîches le matin avec moins 3 à 0 degrés sur le nord-est, 3 à 7 à l'intérieur du pays et jusqu'à 13 degrés au bord de la Méditerranée. Et puis au meilleur de la journée, il fait un peu plus doux demain après-midi avec 10 à 18 degrés, 10 degrés pour Annecy, 12 à Paris et jusqu'à 18 à Marseille.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hameau de Boursier.com, suivi de l'interview Echo et cette information qu'Europe 1 vous révèle ce soir. 60% des Français ont acheté ou ont l'intention d'acheter un smartphone reconditionné, c'est du jamais vu. Emmanuel Duteil reçoit à ce sujet Jean-Christophe Estoudre, président de Smart, un des grands noms des smartphones reconditionnés en France. A tout de suite.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street marque une pause après ses records de la veille.
Oui, après les records impressionnants d'hier, Wall Street effectivement est plus calme à la veille de Thanksgiving qui sera férié aux États-Unis demain. Le Dow Jones redonne 0,58%. Il était au-dessus des 30 000 points hier. Ce soir, on revient à 29 873 points. Le Nasdaq monte quand même de 0,48% encore à 12 094 points avec quelques valeurs de technologie qui grimpent comme Tesla de nouveau plus 3,3%. Tesla, toujours plus haut, $574. On a Amazon qui prend 2%. Le reste est plus stable. Microsoft, inchangé. Facebook, moins 0,5%. Apple, plus 0,7%. IBM est stable aussi. Vous en parliez tout à l'heure avec ce plan de réduction d'effectifs en Europe. IBM, $124 ce soir, inchangé. Donc, le laboratoire Moderna grimpe, lui, de plus de 10%. Le groupe fournira 80 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre le Covid à l'Union européenne dans les prochains mois. Ça donne donc Moderna en hausse de 10,8% ce soir à la clôture. Le pétrole grimpe encore un peu, plus 1,8%. Il remonte à $45,70 le baril, au plus haut depuis le mois de mars dernier. L'euro monte aussi au-dessus des 1,19, 1,1925 face au dollar.
La Bourse de Paris a poursuivi sa progression ce soir avec une nouvelle hausse du CAC 40.
Une hausse, oui, modeste, mais une hausse quand même, plus 0,23%, 5571 points sur le CAC, dans un marché plus calme aussi, après sa remontée de plus de 1000 points en 3 semaines. Ça monte encore sur des industriels, des valeurs industrielles comme Plasticomium, plus 7%. L'équipementier automobile accélère sur l'hydrogène. Et puis le cimentier V4 remonte aussi de 3%, ainsi que Veolia, 19,50 €. Le groupe maintient la pression sur Suez. Alstom aussi gagne 2,5%. Et puis Engie progresse d'1,7% à 12,63 € ce soir.
Exception du jour, le titre Aéroport de Paris qui a rechuté de 5%.
Oui, c'est tout le secteur qui redescend. En fait, le secteur aérien qui était bien remonté, qui avait rebondi de façon spectaculaire depuis 3 semaines, ADP, retombe de pratiquement 5%, 109,30 €. Après son récent rebond, le broker Morgan Stanley prévient qu'il faudra au moins 2 ans pour voir le trafic aérien retrouver des niveaux acceptables et les rendements qui vont avec. Donc beaucoup de prudence sur ADP. À court terme, le broker prône donc plutôt la prudence sur ce dossier qui redescend de 4,8% exactement à la clôture ADP à 109,30€ ce soir. Sur les autres places financières, pas beaucoup d'écart. Le DAX est stable à Francfort, Bruxelles -0,5, Amsterdam -0,2, Madrid +0,2% et donc le CAC 40 en légère hausse de 0,23% ce soir, 5571 points.
Merci beaucoup Didier Hamo de Boursier.com et à demain Didier. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jean-Christophe Estoudre.
Oui, bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de Smart. Alors j'imagine que beaucoup de nos auditeurs ne vous connaissent pas encore. Vous êtes pourtant un des grands noms du reconditionnement de téléphones portables en France. Et si on a voulu être en ligne là ce soir avec vous sur Europe 1, c'est parce que vous publiez demain un gros sondage justement sur notre envie ou non d'acheter des produits reconditionnés et notamment des téléphones portables. C'est un sondage que vous avez réalisé au mois d'octobre avec l'Institut de sondage IFOP. La réponse est très claire. Jusque-là, on se posait un petit peu la question, mais il y a une très très forte progression de ceux qui se voient tout à fait acheter un portable reconditionné. C'est le cas, Jean-Christophe Estoudre ?
Oui, oui, bien sûr. Alors effectivement, donc aujourd'hui, pour 86% des Français, chaque Français maintenant sait ce qu'est un téléphone reconditionné. Donc vraiment, on a une énorme croissance et les Français savent ce qu'est le reconditionnement. Et en deuxième lieu, on a vraiment une grosse croissance, effectivement, et un vrai besoin, une intention d'achat ou d'acheter donc un smartphone reconditionné qui représente plus de 60% des Français. Plus d'un Français sur deux aujourd'hui est prêt à acheter ou a déjà acheté un smartphone reconditionné.
Je le disais, vous êtes un des grands noms de ce marché. Est-ce que ça se voit de façon très basique dans vos ventes ?
Ça se voit oui et non, parce que bon, nous avons fait quand même la démarche effectivement donc de maîtriser toute la filière effectivement donc de traitement du reconditionnement et de la traiter en totalité en France. Donc aujourd'hui sur ce marché du reconditionné, il y a différents moyens de se procurer donc un smartphone reconditionné via des canaux classiques donc des magasins physiques, mais aussi Internet. Et sur Internet, on a un peu de mal, je vous avouerai, à s'y retrouver. Mmh. Donc, du coup, aujourd'hui, voilà, on fait beaucoup d'efforts, effectivement, en termes de communication et de pédagogie pour informer sur ce qu'est le reconditionné et surtout ce qu'est un reconditionneur qui maîtrise toute la chaîne, donc, d'approvisionnement, de reconditionnement, de vente et même la partie gestion du service après-vente en cas de problématique.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez du mal à ce que les gens vous fassent confiance, tout simplement, parce qu'on a peur, disons-le là aussi très clairement, de se faire avoir.
Oui, oui, bien sûr. On se rend compte qu'encore 43% des Français donc doutent sur la fiabilité, l'autonomie de la batterie ou que les garanties proposées sur les produits reconditionnés sont insuffisantes. Donc, on a encore besoin, effectivement, donc de pouvoir lever ces freins à l'achat. Et donc, dans ce cadre-là, il faut que l'on approche, effectivement, et qu'on apporte donc des garanties pour le consommateur. Et les meilleures des garanties, et pour regagner la confiance, c'est d'amener de la traçabilité, de la transparence sur les processus de reconditionnement. Mmh.
C'est-à-dire qu'il faut, vous, que vous expliquiez encore beaucoup plus comment vous faites, qui vous êtes. Il faut être finalement beaucoup plus transparent, c'est ça l'idée ?
Oui, oui, pour être beaucoup plus transparent, il faut effectivement expliquer d'où viennent les produits reconditionné. Donc, un produit reconditionné est un produit de seconde vie, hein. C'est vraiment une seconde vie. La matière première de ce produit est un produit d'occasion qui va suivre ensuite un processus de reconditionnement. Donc, le mieux, c'est d'informer déjà sur la provenance de ce produit d'occasion. D'où il vient? Est-ce qu'il vient de France? Est-ce qu'il vient d'Europe? Est-ce qu'il vient de l'étranger? Ça, c'est excessivement important. Ensuite, il faut informer le consommateur sur l'usine qui a reconditionné, donc, ce produit. Où est-ce que le traitement a été effectué ? Une fois de plus, est-ce que c'est en France, en Europe ou quelque part dans le monde, hein, en Asie ou aux États-Unis ? Et ensuite, informer sur la distribution du produit, quelle est la marque effectivement qui amène toutes les garanties de fiabilité et qui est le distributeur. Et pour finir, eh bien, en cas de problème, puisque c'est souvent la crainte du consommateur, où se trouve la hotline, où se trouve le service client qui va accompagner l'acheteur en cas de problème. Et là, quand tout est internalisé sur le territoire français, c'est vraiment le choix que nous on a fait.
C'est là où les Français sont confiants du coup. Parce que ce qui est très intéressant dans ce sondage IFOP que vous faites paraître demain matin, c'est qu'on voit que quand les Français ont confiance, ils sont prêts à dépenser de l'argent pour un téléphone reconditionné puisqu'ils sont plus de 20% à dire qu'ils sont prêts à payer plus de 250 euros. Et c'est environ 10 points de plus que dans votre enquête de l'an passé.
Oui, oui, effectivement. Donc le panier moyen, effectivement, a tendance à monter. Dès que le consommateur est rassuré, il n'a pas d'inquiétude à acheter un produit de seconde main du moment où il est rassuré sur sa qualité et sur sa fiabilité.
Et ça va s'accélérer, ce mouvement, avec l'arrivée de la 5G, hein, puisque, je le rappelle, on va devoir changer de téléphone portable pour pouvoir bénéficier de la 5G. Là, en plus de tous les portables qui dorment dans les placards, vous allez avoir une matière première assez exceptionnelle.
Oui, oui. Alors, on va avoir effectivement donc beaucoup plus facilement effectivement les téléphones d'ancienne génération. Bon, après, la transition va se faire quand même relativement en douceur. Hein. Il va pas y avoir une rupture totale quand même du jour au lendemain, puisque la 5G, le temps qu'elle s'installe sur le territoire, c'est quand même, ça va être quand même être échelonné sur plusieurs mois et même plusieurs années. Donc, du coup, oui, il va y avoir une matière première importante, mais il y aura aussi vraiment un marché sur les téléphones d'ancienne génération 4G. Mmh. Puisqu'ils seront d'autant plus attractifs d'un point de vue prix. Voilà.
Ce qui est aussi intéressant, et là peut-être d'un mot pour terminer dans votre sondage, c'est que plus largement, on voit qu'à l'aune de cette crise, les Français se portent de plus en plus vers un achat local, vers un achat français quand c'est possible. En tout cas, l'envie est là.
Oui, 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 bien sûr. Donc on se rend compte que 27% des Français, depuis la crise sanitaire, veulent acheter des produits français. 29% des Français veulent acheter des produits responsables. Donc oui, effectivement, on veut avoir de la traçabilité, on veut consommer responsable. Les tendances, effectivement, de consommation d'aujourd'hui se portent beaucoup vers la seconde main aujourd'hui. Hein.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Christophe Estoudre, le président de Smart, un des grands noms du reconditionnement de téléphones portables en France. Et je vous rappelle ce sondage que l'on révèle ce soir en exclusivité sur Europe 1, des Français qui sont de plus en plus disposés à acheter un smartphone reconditionné. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil, interview à retrouver sur notre site europe1.fr. 22h28 sur Europe 1 et comme promis du foot pour terminer ce journal de la nuit, direction le Stade Vélodrome où l'OM est en train d'être et toujours dominé face à Porto, Jean-François Pérez.
Oui absolument, 1-0 pour les Portugais hein, depuis la 39e minute, c'était en première mi-temps que ça s'est passé, pourtant l'OM avait plutôt fait une bonne entame de match, mais un cafouillage dans la surface et un but de Zaidou, le latéral nigérian de Porto, qui permet donc à l'équipe portugaise de mener alors qu'il ne reste plus que 20 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Et que les Portugais obtiennent à l'instant même, Julien, un pénalty pour une faute dans la surface de réparation marseillaise. C'est Leonardo Balerdi, le défenseur argentin de l'OM, qui a retenu un attaquant portugais, en l'occurrence Marega. Et ce sera donc l'occasion pour le FC Porto d'aggraver le score. Je n'ai même pas eu le temps de vous dire que Porto, alors que Balerdi est expulsé suite à cette faute et à ce pénalty donc concédé, qui va être tiré dans quelques instants par le FC Porto, je n'ai même pas eu le temps de vous dire que Porto est réduit à 10 depuis quelques minutes, puisque le Serbe Marko Grujic a été expulsé pour une très grosse faute sur l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Dario Benedetto. Voilà donc les deux équipes qui se retrouvent à 10, mais la balle de match dans quelques secondes, Julien, elle va être pour Porto. Je ne sais pas si on a le temps de suivre
vous
ce pénalty.
Vous avez le temps, Jean-François.
Eh bien alors on va prendre ce temps-là, juste l'occasion pour moi de vous rappeler que bien l'Olympique de Marseille est face à un record terrible qui se rapproche au fur et à mesure hein, puisque l'OM est sur le point de perdre son 13e match d'affilée en Ligue des Champions, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. 12, c'était déjà un record codétenu par l'OM et par Anderlecht, et là c'est Sergio Oliveira, le capitaine de Porto, qui va peut-être sceller le sort de ce match. Il est face à Steve Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille, qui a été bon hein, comme d'habitude jusqu'à présent, rien à reprocher à Steve Mandanda, mais là c'est un pénalty, c'est très compliqué pour l'Olympique de Marseille dans cette Ligue des Champions 2020-2021, c'est presque parti pour le pénalty, on vérifie simplement que les joueurs ne sont pas entrés dans la surface de réparation, l'arbitre va être très tatillon vis-à-vis de ça, va donner son coup de sifflet et va permettre donc à Sergio Oliveira de tenter ce pénalty du 2-0 pour Porto. Voilà, le coup de sifflet est donné, Sergio Oliveira qui s'avance vers Mandanda et qui arrive néanmoins, alors que Mandanda avait fait une belle parade, il était parti du bon côté, mais arrive tout de même à mettre le ballon au fond des filets. 2-0 pour Porto, ça n'est terminé, sans doute désespoir de l'Olympique de Marseille, même s'il reste 20 minutes de jeu.
Le calice jusqu'à la Ligue, donc merci Jean-François Pérez en direct de Marseille pour Europe 1. Un mot pour terminer des unes des journaux de demain, et je vous conseille vivement d'aller acheter l'équipe dont la une est magnifique. Dieu est mort, peut-on lire en dessous d'une très belle photo de Diego Maradona. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Je vais très bien.
bien, ou Liverpool, vous avez vu, ça se passe pas terrible. Hein.
Non, je n'ai pas encore vu, mais...
Écoutez, je vous donne la surprise, puisque vous êtes le premier à être un petit peu tatillon avec moi pour le Paris Saint-Germain. Liverpool est mené sur son terrain 2-0 par Bergam.
Oh ouais, bah il doit rester encore 20 minutes.
Il reste 20 minutes, et je peux vous dire que j'espère bien qu'ils vont remonter.
En revanche, vous, il vous reste 2h30 d'antenne, 39-21 pour vous appeler dans la libre antenne, et qui débute maintenant donc, et jusqu'à 1h du matin. À tout de suite.
À tout de suite.